60 jours aujourd'hui. C'est la date qu'il faut retenir. 60 jours depuis que Trump et Netanyahou ont lancé cette guerre contre l'Iran le 28 février. Et je pense qu'on est arrivé à un moment où il faut prendre le temps de poser les choses, parce que ce qui se joue là-bas redessine l'ordre mondial.
Ouais, et franchement, en regardant les chiffres ce matin, dans le grand continent, j'ai eu un petit vertige. 3070 frappes aériennes sur le territoire iranien, 1434 morts, près de 2800 bâtiments touchés, rien qu'à Téhéran, selon des données satellites de l'Université d'État de l'Oregon. C'est pas une opération chirurgicale, ça, c'est une guerre totale.
Et il faut ajouter le Liban à ce tableau, parce qu'on l'oublie. Tzahal a frappé plus le Liban que l'Iran sur la même période. 2300 frappes contre 1900 et au moins 1600 morts au Liban. Le cessez-le-feu annoncé par Trump le 16 avril n'a pas arrêté les bombardements quotidiens dans le sud. C'est un continuum de guerre.
Alors recadrons pour ceux qui prennent le train en marche. Le 28 février, frappe massive américano-israélienne contre les sites nucléaires iraniens, notamment à Isfahan. L'Iran riposte, 1600 drones et missiles contre le Golfe, Israël mais aussi l'Azerbaïdjan, Chypre, la Turquie. Le 8 avril, Trump annonce un cessez-le-feu, prolongé Sindhi le 21 avril. Sauf que la guerre, elle, continue sous une autre forme, le blocus.
Voilà le point central. La guerre cinétique s'est arrêtée le 10 avril, dernière frappe selon Akled. Mais ce qu'on a maintenant, c'est un blocus naval américain sur le détroit d'Ormuz. Et c'est là que la stratégie de Trump révèle son impasse.
Explique-moi les chiffres, parce que c'est dingue. Selon Kepler, jeudi 30 avril, seulement 6 navires ont traversé Hormuz entre minuit et 15 heures. Aucun pétrolier iranien n'est sorti du détroit officiellement. L'Iran exporte 0,5 million de barils par jour en avril, contre 4 fois plus en février. Les réserves iraniennes sont pleines à 60%, donc Téhéran va devoir réduire sa production.
Et côté américain, le coût est colossal. 25 milliards de dollars dépensés depuis le 28 février, 3 porte-avions déployés, le Ford, le Bush, le Lincoln. Le Ford est en mer depuis plus de 300 jours, il doit rentrer. C'est une saignée logistique pour la marine américaine.
Donc Trump a rejeté mercredi la proposition iranienne d'ouvrir le détroit en échange de la levée du blocus, avec un report des négociations nucléaires. Et là, il se fait briefer aujourd'hui par l'amiral Brad Cooper sur de nouvelles options militaires. Le Grand Continent souligne un truc glaçant. Le dernier briefing similaire de Cooper, c'était le 26 février, 2 jours avant le début de la guerre.
3 options sur la table, selon l'article. 1. Nouvelle série de frappes courtes et massives. 2. Prise de contrôle militaire d'une partie du détroit. 3. Opération des forces spéciales pour extraire l'uranium hautement enrichi. Aucune n'est crédible stratégiquement, et c'est exactement ce que pointe Pascal Boniface dans l'analyse de l'IRIS publiée hier.
Cite-moi l'analyse, est-ce qu'elle m'a paru très juste?
L'IRIS dit en substance que les scénarios initiaux, guerre rapide, changement de régime, fin du programme nucléaire, se sont évaporés. Trump voulait une démonstration de leadership. Il se retrouve dans une impasse stratégique. Et surtout, il apparaît comme suiveur de Netanyahou, pas comme leader. C'est une analyse classique de la limite de l'interventionnisme militaire. Ça produit des blocages durables et des effets contraires aux objectifs.
Et le guide suprême Mojtaba Khamenei, parce que oui, c'est Mojtaba maintenant, le fils d'Ali Khamenei a pris la suite, déclare jeudi que le régime ne renoncera pas à ses technologies de pointe et maintiendra son contrôle sur Hormuz. Donc, objectif américain numéro 1, raté. Le programme nucléaire iranien existe toujours.
Et là-dessus se greffe une crise transatlantique majeure, qu'il faut décortiquer parce qu'elle est révélatrice. Le chancelier allemand Friedrich Merz a osé dire que les Américains n'ont visiblement aucune stratégie en Iran et que Téhéran humiliait les États-Unis. Trump a explosé sur Truth Social, l'a sommé de redresser son pays en ruine et menace de retirer une partie des 35 000 soldats américains stationnés en Allemagne.
Selon 20 minutes, l'Italie et l'Espagne sont aussi dans le viseur. Et Weidfühl, le ministre allemand des Affaires étrangères, dit que Berlin est préparé à une réduction. C'est pas anodin ça. C'est l'OTAN qui craque en direct.
C'est plus que ça, Alex. C'est la fin d'un cycle ouvert en 1949. Quand un chancelier allemand dit publiquement que Washington n'a pas de stratégie et que Washington répond par des menaces de retrait, on assiste à la rupture du pacte de sécurité euro-atlantique tel qu'on l'a connu. Et derrière, qui en profite structurellement?
La Chine, évidemment. L'IRIS pose justement la question. la crise énergétique provoquée par le blocus avec un baril en Fortos, ne va-t-elle pas retourner l'opinion mondiale contre les États-Unis qui sont à l'origine de la guerre? Et la Chine produit de l'énergie décarbonée à coût moindre. Donc on a un transfert de légitimité géopolitique en cours.
Et puis il y a la recomposition du Golfe qu'il faut absolument évoquer. Les Émirats arabes unis ont annoncé mardi 28 leur sortie de l'OPEP. C'est un séisme.
Explique-moi pourquoi c'est un séisme. Parce que pour un néophyte, ça paraît technique.
L'OPEP, plus l'OPEP et plus avec la Russie depuis 2016, c'est le cartel qui régule les prix du pétrole en fixant les quotas de production. Les Émirats sortent parce que, selon l'analyse de Guillaume Duval dans Le Grand Continent, deux raisons. D'abord conjoncturelle, la guerre a démoli leur modèle de diversification. Dubaï comme hub financier, jet set, transport aérien. Les investisseurs se détournent. Donc MBZ a besoin de pomper plus de pétrole pour financer son armée et ses interventions extérieures.
Et la deuxième raison, c'est la rivalité MBZ contre MBS, Mohamed Ben Zayed contre Mohamed Ben Salman. Ils sont en guerre par procuration au Yémen, au Soudan, où MBZ arme les RSF, ces milices génocidaires du Darfour, en Somalie sur la question du Somaliland, et MBZ a misé sur Israël et les accords d'Abraham, alors que MBS prend ses distances avec Netanyahou et Trump qui vient de l'injurier publiquement.
Quitter l'OPEP, où l'Arabie Saoudite domine, elle produit 2,5 fois plus que les Émirats, c'est une déclaration de guerre économique de MBZ contre MBS. Et politiquement, mon analyse, c'est qu'on assiste à l'éclatement définitif du bloc sunnite arabe. La guerre contre l'Iran, qui devait souder le Golfe contre la menace chiite, produit l'effet inverse. Elle accélère la fragmentation.
Pendant ce temps, on oublie presque que l'Ukraine continue de saigner. 1527e jour de guerre hier. Poutine propose un cessez-le-feu pour le 9 mai, jour de la victoire soviétique sur les nazis. Zelensky, dans 20 minutes, demande aux États-Unis des détails et réclame un cessez-le-feu à long terme, pas quelques heures de sécurité pour un défilé à Moscou.
Et Trump reproche à Merz d'être totalement inefficace sur l'Ukraine. C'est cohérent avec sa logique. Déléguer la guerre ukrainienne aux Européens pour se concentrer sur l'Iran et punir ceux qui ne suivent pas. Sauf que ça révèle l'épuisement de la puissance américaine. On ne peut pas mener un blocus sur Hormuz à 25 milliards, soutenir Israël au Liban et entretenir le front ukrainien en même temps.
Politiquement, l'Iris note que les démocrates américains se réveillent et que le doute s'installe chez certains soutiens de Trump. Tu y crois, toi, à un retournement intérieur?
J'y crois si la crise énergétique frappe le consommateur américain à la pompe. C'est toujours là que ça se joue. Mais je veux nuancer une chose. On ne sortira pas de cette guerre par un sursaut démocrate libéral. Ce qu'on voit, c'est l'échec d'une logique impériale qui dépasse les partis. Biden a continué Trump sur Israël, Harris aurait fait pareil. Le vrai clivage n'est pas électoral, il est entre les peuples et les appareils militaro-industriels.
Alors qu'est-ce qu'on surveille dans les jours qui viennent?
Trois choses. 1. La décision de Trump après le briefing de Cooper. Si on bascule vers les forces spéciales sur l'uranium, on est dans une escalade incontrôlable. 2. Le 9 mai, est-ce que Poutine obtient son cessez-le-feu cosmétique ou est-ce que Zelensky tient sa ligne dure soutenue par les Européens?
Et 3. Moi, je surveille les marchés du pétrole et la réaction de l'Arabie Saoudite à la sortie émiratie de l'OPEP. Si MBS riposte en augmentant la production pour faire chuter les prix, il punit MBZ, mais il fragilise aussi la rente russe. Ce serait un retournement énorme.
Et je rajouterais, surveiller le déploiement militaire allemand. Si Berlin commence à parler concrètement d'autonomie stratégique européenne, on entre dans une autre époque. La fin de l'OTAN telle qu'on l'a connue, ça se joue peut-être ces semaines-ci.
60 jours qui ont changé le monde, donc. On en reparle demain.
On en reparle demain.